Voilà. Voilà, bonjour. Donc, c'est moi qui vais ouvrir le feu. On va faire, en fait, une présentation. On est convenu avec Patrick de faire une présentation à deux voix, qui s'élargira d'ailleurs à d'autres voix en cours de présentation, puisque les collègues qui sont pilotes de modules auront l'occasion de présenter de manière un peu plus précise à la fois les objectifs, les matériaux et les modalités de travail dans les modules. Et pour ce qui nous concerne, donc, Patrick Rayou et moi-même, on va essayer de vous fournir un certain nombre de repères, de balises par rapport à la nature du travail qui est engagé, qui pose un certain nombre de problèmes qui ont déjà été évoqués, notamment sur les questions d'articulation, recherche, formation, des temporalités qui se percutent un petit peu entre le temps de la recherche et le temps de la production de ressources, etc. Donc revenir sur ces aspects et resituer la thématique qui va nous occuper ces deux jours autour donc de trois points. Hein. Le premier concerne une explicitation de ce qu'on met derrière le travail enseignant en contexte spécifique. Ce sera l'occasion de développer un petit peu le point de vue commun qui, malgré des cas théoriques un peu différents entre les différentes équipes, constitue un dénominateur commun des travaux et des matériaux qui seront présentés. Un deuxième point où on reviendra justement sur la nature de ces recherches, des recherches engagées qui nourrissent cette production de ressources, à la fois les cas théoriques, rapidement les méthodologies utilisées, mais aussi la prudence à avoir par rapport justement à la nature de ces travaux. Et puis un troisième point qui consistera à présenter de manière plus précise les trois modules qu'on vous proposera au fil des deux journées. Voilà, donc pour ce qui me concerne, je vais essayer d'expliciter un petit peu cette idée de travail enseignant, enfin en tout cas essayer de préciser le point de vue qui est le nôtre quand on parle de travail enseignant, et Patrick de son côté développera davantage l'idée de travailler en contexte spécifique, hein, puisque la formule qu'on a utilisée, travail enseignant en contexte spécifique, renvoie à deux dimensions, donc d'un côté le travail enseignant, de l'autre l'idée de contexte spécifique du point de vue des politiques, de la pédagogie, etc. Alors, concernant le travail enseignant, la notion de travail qu'on utilise s'appuie très largement sur toute une tradition hein, qui est au carrefour de l'ergonomie, de la psychologie du travail, de la psychodynamie du travail, de la clinique de l'activité, etc. Pour laquelle le travail est considéré, donc le travail enseignant en l'occurrence, est considéré à la fois du point de vue de son efficacité objective. On essaie de regarder en quoi le travail des enseignants et plus largement des professionnels de l'éducation permet d'atteindre une certaine efficacité objective, avec d'ailleurs des questions là, assez compliquées sur comment se donner les moyens d'évaluer cette efficacité objective. Donc ce que j'appelle efficacité objective, c'est l'efficacité qui est relative à l'objet du travail, pour l'enseignant organiser les conditions de l'étude dans la classe par exemple, mais aussi comment le travail est l'occasion de déployer une autre forme d'efficacité que je qualifierais d'efficacité subjective, c'est-à-dire en quoi le travail est aussi l'occasion de se réaliser, de développer des compétences, en quoi le travail est un vecteur de développement pour les enseignants et plus largement pour les professionnels de l'éducation. Voilà, donc c'était pour préciser un petit peu ce qu'on met derrière le travail et cette idée que, de notre point de vue, il faut prendre au sérieux le fait que l'enseignement est un travail à part entière et que, à ce titre-là, comme toute autre activité de travail, il est justiciable d'une analyse qui peut emprunter largement à un certain nombre d'outils qui ont été forgés par les sciences du travail en général, hein, au carrefour des différentes disciplines que j'ai évoquées, ergonomie, psychologie du travail, clinique de l'activité, psychodynamique, etc., qui essaient de tenir ensemble plusieurs dimensions, hein, à la fois les effets du travail, on pourrait dire les effets productifs du travail, hein, la transformation de l'objet du travail, mais aussi les dimensions constructives du travail, c'est-à-dire les effets en retour du travail sur les opérateurs, le terme opérateur étant utilisé ici au sens où l'utilise l'ergonome, c'est-à-dire ça désigne tout sujet au travail, hein, de quelque nature que soit ce travail. Donc cette idée qu'il faut pouvoir prendre en compte à la fois les résultats du travail du point de vue des dimensions productives du travail, hein, mais aussi les effets du travail du point de vue de ces dimensions constructives, et que dans l'activité de travail, chacun essaie d'élaborer des compromis pour faire tenir ensemble ces deux logiques-là qui sont quelquefois plus ou moins contradictoires. Donc je reviendrai sur cette notion de compromis qui nous paraît être, enfin, qui est centrale en tout cas dans les approches qu'on développe. Alors, pour revenir sur cette question du travail enseignant de manière un petit peu plus précise, après ce préambule, le premier constat qu'on peut faire, c'est cette question du travail tel que je viens de l'évoquer rapidement, elle occupe aujourd'hui une place qui est quand même assez réduite, même si elle tend à s'élargir aujourd'hui, aussi bien dans le champ de la recherche en éducation que dans celui de la formation des professeurs. Donc c'est de ce point de vue les matériaux qu'on soumettra à votre analyse présentent un caractère un petit peu original dans la mesure où justement ils essaient d'alimenter, de documenter cette approche-là du travail, hein, et c'est comme ça qu'on essaie de regarder ce qu'il en est de l'activité des professionnels qui sont amenés à exercer dans des contextes spécifiques comme les réseaux à mission réussite. En particulier, ce qui, de notre point de vue, n'est pas suffisamment pris en compte à la fois dans les travaux de recherche, mais aussi dans la formation, c'est les modes d'investissement des professionnels de l'éducation dans la réalisation des tâches qui leur sont confiées. Et je dirais l'intensité de cet investissement qui constitue assez largement un terrain en friche pour la réflexion. Alors, si on regarde ça du côté du travail enseignant, on se rend compte que la prescription qui est imposée aux professeurs de prescrire à son tour des tâches à d'autres, à savoir les élèves, qui doivent donc réaliser les tâches prescrites par l'enseignant, le place dans une position assez particulière, puisque ça fait de lui à la fois l'organisateur, mais aussi le gestionnaire du cadre de cette réalisation. Et du coup, en regardant le travail du professeur de cette façon-là, et a fortiori, alors j'y reviendrai quand on le regarde sous le prisme d'enseigner en rare, mais de façon générale, la façon d'approcher le travail enseignant de cette manière-là permet de spécifier finalement cette activité de travail par rapport à d'autres activités de travail, parce qu'on se rend compte qu'il y a une charge psychique très lourde, qui permet de comprendre le sentiment de fatigue que génère ce type d'activité, puisque finalement on a dans le même individu hein, des compétences très différentes qui, dans d'autres secteurs professionnels, renvoient à des catégories professionnelles différentes, puisque l'enseignant est à la fois un organisateur du travail des élèves, un réorganisateur de ce travail dans le vif de l'interaction avec les élèves, en fonction des réactions des élèves, mais aussi de ses propres les effets de son travail avec les élèves sur lui-même. Et en même temps un opérateur qui doit en direct faire en sorte que on puisse maintenir le cap, faire en sorte de déployer une sorte d'efficacité malgré tout. Donc des compétences qui sont quand même réunies l'activité de travail de l'enseignant et qui peuvent expliquer que une telle charge mentale puisse dans certaines conditions d'exercice générer des formes de fatigue, d'usure professionnelle, etc. Alors, ce qu'on peut ajouter, sans entrer spécifiquement dans la question justement du contexte spécifique, puisque c'est Patrick qui va s'en charger, mais ce qu'on peut ajouter, c'est que cette activité-là, elle est rendue probablement plus difficile aujourd'hui, parce que les conditions nécessaires pour faire vivre justement les conditions du travail dans la classe et du travail de l'enseignant avec ses élèves, elles vont de moins en moins de soi aujourd'hui. Je dirais dans un contexte où, de manière assez largement, la responsabilité des enseignants est convoquée face à des problèmes professionnels inédits, qui n'ont probablement pas été rencontrés dans les mêmes termes par les générations antérieures d'enseignants, et qui, de ce point de vue, interpellent le métier et sa capacité à offrir du répondant par rapport à des situations professionnelles inédites. Tout particulièrement dans ce qu'Annick Davis appelait ces zones de turbulence où se trouve aujourd'hui propulser toute une partie de la profession. On peut ajouter également cette idée que à ces prescriptions descendantes dont la lisibilité ne va pas toujours de soi et qui sont souvent caractérisées par une tendance qu'on observe dans les activités de service en général, c'est-à-dire toutes les activités où l'objet du travail c'est un sujet ou des sujets, on observe que le travail enseignant n'échappe pas à cette tendance-là, qui se caractérise par le fait qu'on a affaire bien souvent à des prescriptions où on a une surprescription des objectifs et en même temps une sous-prescription des moyens qui sont censés permettre les atteindre. Alors, vous voyez que, bien entendu, ce type de prescription, hein, qui est vraiment une tendance très généralisée aujourd'hui dans les activités de service, hein, aussi bien dans l'enseignement que dans les services sociaux, les soins, les guichets, etc., laisse à la charge des opérateurs de première ligne le souci de se débrouiller avec ce qu'un de mes collègues appelle les aspérités du réel, c'est-à-dire le souci de trouver des façons de faire, des compromis qui visent à la fois à faire ce qu'on leur demande de faire, mais en même temps à le faire dans des conditions telles qu'on puisse élaborer des modes d'usage de soi qui sont compatibles aussi avec les exigences de santé, de développement, etc. Donc, on a des prescriptions descendantes qui, assez largement, dans le cas du travail enseignant, fonctionnent sur ce double principe de surprescription des objectifs. François Danielou, qui est un collègue ergonome, parle de prescription infinie des objectifs et de sous-prescription des moyens permettant d'atteindre ces objectifs. Avec un deuxième aspect de ces prescriptions qui se traduit par le fait que, à l'accroissement de l'intensité du travail dans les activités de service et donc particulièrement dans l'enseignement, ce que j'appelle l'intensité du travail, ça renvoie finalement aux questions que soulève le sens même de l'activité avec certains publics, hein, du sens de son activité d'enseignant, les soucis que génèrent les conflits de l'activité, les dilemmes qu'on a affrontés. On voit bien comment dans le travail enseignant, la contradiction entre bien faire et faire le bien est portée à son paroxysme dans le moindre geste professionnel. Et ça implique des arbitrages, ça implique d'opter, de débattre avec soi-même, de trancher, et ça alimente très largement les préoccupations professionnelles des collègues aujourd'hui. Donc à cette intensité du travail qui s'accroît très largement aujourd'hui dans les activités de service en général et dans l'activité enseignante en particulier, on a une tendance là aussi des institutions à répondre par une intensification du travail. Donc l'intensité, ça renvoie à ce que je viens d'évoquer, les questions de sens, les soucis générés par les conflits, les dilemmes de l'activité, etc. L'intensification du travail, c'est plutôt la multiplication des tâches auxquelles sont soumis les professionnels de l'éducation. Et on a là, d'une certaine façon, cette intensification du travail qui vient percuter l'intensité, sans pour autant, bien entendu, régler les problèmes que génère cet accroissement de l'intensité du travail. Donc l'intensification, elle passe par la démultiplication des tâches, l'élargissement des tâches, des champs de compétences et d'intervention des enseignants. On aura largement l'occasion d'y revenir pendant ces deux jours à travers les trois modules. Mais elle ne règle pas du tout, au contraire, la question de l'intensité du travail, c'est-à-dire de ce qui relève finalement des décisions à prendre dans l'action, souvent sans avoir la possibilité de délibérer, ou alors de délibérer dans l'urgence, et qui finalement soulève la question de la qualité du travail qu'on fait. Un des problèmes que soulèvent les activités de service et l'enseignement en particulier, c'est que la qualité du travail, ce que signifie faire du bon boulot quand on est enseignant avec certains publics, c'est une dimension qui est de plus en plus controversée et qui génère beaucoup de conflits de critères. Donc ce point de vue qui consiste à essayer de prendre au sérieux l'enseignement comme travail conduit à se départir, c'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on essaiera de faire dans la façon dont on va animer les deux journées, se départir d'une attitude assez courante, assez fréquente, qui consisterait à vouloir transformer le travail enseignant à partir de ce que devraient faire ou ne pas faire les enseignants, plutôt que de s'efforcer de comprendre ce qu'ils font réellement. Et c'est vraiment un point de vue là qui réunit, je pense, les trois équipes, hein, cette idée que plutôt que de chercher à vouloir systématiquement transformer ce que font les enseignants à partir d'un point de vue extérieur à leur travail, il est peut-être temps de s'intéresser de manière assez précise, à regarder de près ce que font les enseignants, dans ce que ça peut avoir de tout à fait intéressant, comme dans ce que ça peut avoir de franchement médiocre, hein, parce qu'ils sont contraints de faire des compromis, et qu'un des enjeux justement du travail qu'on peut conduire avec eux, c'est de les aider à réactualiser ces compromis sur d'autres bases, plus efficaces à la fois par rapport à l'objet de leur travail, c'est-à-dire l'apprentissage des élèves, mais aussi plus efficaces par rapport à l'usage qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes dans leur travail. Donc ce travail, il est coûteux, je l'ai dit, il nécessite un investissement dont les modalités sont une composante essentielle à prendre en compte dans l'analyse qu'on peut faire de l'activité des enseignants. Investissement qui contraint les enseignants à gérer en permanence non seulement les effets de leur travail sur les élèves, mais aussi les effets en retour de leur propre activité sur, sur eux-mêmes. Du coup, travailler, c'est pas pour l'enseignant exécuter un programme, c'est toujours arbitrer entre ce qu'on lui demande d'un côté et ce que ça lui demanderait s'il le faisait comme on le lui demande. Et dans cet espace de compromis, compromis opératoire, je reviendrai sur cette notion, c'est une notion qu'utilise, qui est centrale en ergonomie, se déploie un certain nombre d'arbitrages qui précisément visent à permettre aux enseignants d'opérer, c'est-à-dire de gérer des contraintes, d'apprendre en agissant, d'adapter son comportement à une double variabilité, à la fois celle qui est liée à l'état de l'enseignant, mais aussi une variabilité externe liée à des situations de travail qui ne se présentent jamais identiques à elles-mêmes, acquérir des tours de main qui permettent d'atteindre plus efficacement ses objectifs, plus sûrement et plus économiquement, etc. Et donc, si on revient à cette question de l'efficacité dont je disais tout à l'heure qu'elle soulevait des questions compliquées, y compris sur le plan de la recherche, j'ai, pour ce qui me concerne, la conviction qu'on va quelquefois beaucoup trop vite dans certains discours sur l'efficacité enseignante, en occultant justement la complexité de l'activité et en se centrant sur des indicateurs de résultats qui consistent à mettre en relation ce que j'appelais l'efficacité objective avec ce qu'on demande aux gens. On essaie de prendre en compte la complexité de l'activité des professionnels de l'éducation et notamment cette idée que l'efficacité du travail des professionnels de l'éducation n'est certainement pas l'effet d'une cause, mais justement l'expression des compromis plus ou moins efficaces, efficaces ou même franchement inefficaces quelquefois, plus ou moins faciles ou plus ou moins coûteux que les professionnels de l'éducation sont amenés à réaliser pour faire face aux exigences de leur travail. Donc la conséquence de cette façon d'approcher l'efficacité, c'est que pour nous, accroître l'efficacité du travail des professionnels de l'éducation, c'est donc aider ces compromis à se faire et les personnes concernées à les faire. Voilà, je propose pour l'instant d'en rester là sur cette première présentation autour de la notion de travail enseignant et je passe la parole à Patrick Rayou sur les contextes spécifiques.
Merci et bonjour. De la même manière que Frédéric nous dit qu'il faut essayer de prendre au sérieux le travail enseignant, il me semble qu'il faut essayer de prendre au sérieux les contextes dans lesquels se passent ces choses. Pour éviter, entre autres, d'être victime de l'effet de nouveauté que créent les nouveaux labels, hein, si on regarde l'histoire, y compris la plus récente du système éducatif, on voit sans arrêt apparaître des nouveaux dispositifs qui sont très rapidement relayés par d'autres, qui s'enchevêtrent, les uns d'autres qui se stratifient, et on ne sait plus très bien exactement ce qui se passe parfois. Donc, évidemment, la recherche a, je crois, peut avoir pour tâche d'essayer de décortiquer un peu ces différents contextes, parce que si on veut capter l'émergent, encore faut-il savoir si c'est de l'émergent sur commande, parce que c'est des choses qui ont été demandées et qu'on fait comme si c'était de l'émergent, ou bien s'il y a des choses de fond qui sont en train de se passer. Alors, de ce point de vue-là, le réseau Ambition Réussite est un laboratoire tout à fait intéressant et excitant d'observation, à la fois parce que il a mis en place des nouveaux rôles pour ceux qu'on a appelés dans un premier temps les référents et depuis les professeurs supplémentaires, ce qui est lequel glissement est déjà tout à fait intéressant en soi, j'y reviendrai sans doute, ou bien ce qui, par-delà le réseau RAR, est en train de concerner le travail enseignant en général. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas là des traits qui émergent et qui concernent la profession enseignante ? Vous voyez que notre travail de recherche, il est à la fois sur cet objet précis, puisqu'il est circonstancié, mais qu'en même temps, il y a sur le fond une interrogation lourde, je dirais, sur l'évolution de la profession enseignante. J'ai, avec une collègue, commis il y a quelques années un travail sur les nouveaux enseignants, avec la question que l'on pouvait se poser de savoir s'ils sont nouveaux parce qu'ils sont jeunes, parce que tout enseignant a été un jour, ça passe assez rapidement, vous aurez pu vous en rendre compte pour certains d'entre nous, mais le fait d'être nouveau, peut aussi signifier se comporter différemment de la manière dont se comportaient ceux qui ont été nouveaux à un moment donné de leur propre histoire. Donc, vous voyez, c'est cette question-là qui consiste à savoir s'il y a vraiment de l'émergent ou si on est dans des effets d'appellation de dispositifs politiques ou dans des effets de mode parce qu'on a envie de faire du nouveau et qu'il y a une espèce de prime à l'innovation en général. Ce qui est innovant est en général bien apprécié. On voit pas pourquoi il peut y avoir de l'innovant, en fait, de mon point de vue, de l'innovant qui sert strictement à rien ou qui régresse et des choses bien classiques qui marche fort bien. Je crois qu'il faut se méfier de l'idolâtrie de l'innovant. C'est un peu ça que le travail sur les contextes peut nous aider à démêler. Alors, très rapidement et de manière pas vraiment stabilisée, parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. Je crois que ça, c'est une parenthèse qu'il faut ouvrir. Les choses que nous vous disons aujourd'hui, les uns et les autres, elles sont d'une certaine manière brutes de décoffrage. Et il y a un an à peu près, même pas, que nous travaillons sur cette thématique-là. Et donc, il y a des scories, il y a du chantier, il y a des poulies, il y a des échelles, il y a des échafaudages. On va malheureusement tout vous donner à la fois, mais c'est peut-être pas inintéressant en termes de formation, mais ça sera le deuxième point, de voir avec quoi nous débattons, parce que c'est ça peut-être le plus formateur dans l'histoire que la livraison de résultats desquels on a effacé tout ce qui nous a embêté à un moment donné et qui peut-être continue de nous embêter. Il me semble que dans ces contextes-là, encore une fois, si on les regarde pour essayer de comprendre ce qui est émergent, il y a des contextes qui sont généraux. Frédéric y a fait allusion à l'instant. Alors, on dit souvent dans des termes différents, mais par coquetterie et pour pas renoncer à ses propres ancrages conceptuels, on dit souvent, je pense, exactement les mêmes choses avec des termes différents, à peu près les mêmes choses, disons. Lorsqu'il parlait de cette difficulté aujourd'hui qu'il y a à comprendre et à faire tenir tout bêtement les situations, il y a des choses que dans mon jargon ou dans le jargon escolien auquel j'appartiens, on appelle la porosité la forme scolaire. Donc on est en train de dire que cette forme scolaire dont Guy Vincent, dont nous sommes proches ici géographiquement aussi, a fait l'hypothèse qu'elle était une espèce de tendance lourde des systèmes éducatifs de pays comme les nôtres depuis au moins trois siècles, et notamment dans sa variante plus récente républicaine, mais qui s'est exercée pendant très longtemps dans notre pays. Les hypothèses que l'on fait, c'est que cette forme républicaine, elle est un peu poreuse. Hein. Elle s'est construite à un moment donné précisément pour préserver l'école de ce qui n'était pas elle, pour construire à l'intérieur des choses alors, qui avaient des finalités sociales, mais qui étaient momentanément en parenthèse du social. Les observations de tout un chacun sont que cette forme scolaire aujourd'hui, d'une certaine manière du fait de son succès, est poreuse au sens où il y a de la perméabilité dans les deux sens. Des choses entrent dans l'école qui n'y entraient pas, et du coup changent la donne scolaire et la possibilité d'installer rapidement les situations d'apprentissage. Je crois que c'est une des questions avec lesquelles les opérateurs de première ligne se bagarrent. Il suffit plus d'avoir statut d'enseignant pour enseigner, il suffit plus d'avoir une formation d'enseignant pour enseigner, il faut, comme le disent des collègues, je pense René Ami notamment, il faut transformer les enfants en élèves ou les jeunes en élèves, etc., avant même de commencer à essayer d'entrer dans les apprentissages, etc., en entrant dans les apprentissages. Donc ça, c'est ce contexte large dont les réseaux ambition réussite sont sans doute la pointe avancée, à la fois dans la difficulté qu'ils rencontrent vu le déclin du programme institutionnel, si on veut parler comme Dubé en matière de scolarité, et à la fois comme possibilité de remédiation pour recréer de la forme scolaire, recréer de l'apprentissage. Mais il y a un autre aspect de ce cadre large qui est aussi les politiques éducatives. Évidemment, il y a vous savez que le réseau Ambition Réussite est le résultat d'une reclassification des ZEP avec des zones, hein, et ça fait l'objet de décisions du politique qui, tout en étant légitime, évidemment, repose sur des critères qui sont des critères particuliers, il pourrait y en avoir d'autres. Pas mal d'établissements se battraient pour ne pas être rares parce qu'ils pensent que c'est stigmatisant. D'autres se battraient pour l'être parce qu'ils penseraient qu'on a davantage de moyens. On est là dans des approches qui, évidemment, relèvent de l'éducation, mais en même temps de stratégie. Rappelez-vous qu'à un moment donné, les dispositifs ZEP concernait aussi la France rurale et que, au moment de la mise en place des politiques de la ville, de prévention des étés chauds, etc., etc., on a rapatrié l'essentiel des moyens, si je me souviens bien, si j'ai bien compris, des zones rurales dans les zones urbaines, ce qui ne veut pas dire que les zones rurales ne se trouvent pas, pour certaines d'entre elles, dans des conditions au moins aussi difficiles que le sont des zones urbaines, peut-être plus, mais plus silencieuses, moins pénibles au soleil, comme peut dire la chanson. Mais ça fait partie du contexte. Voilà, il y a des découpages, ils ne sont pas quelconques et il faudrait regarder de près à la fois comment ils sont fabriqués, y compris les effets que ça a sur les résultats. Hein, il n'y a pas beaucoup de travaux sur les résultats des politiques ZEP en termes d'apprentissage. Il y a eu ceux de Denis Meuret notamment à une époque, qui avait tendance à montrer qu'à caractéristiques, si j'ai bien compris là aussi, qu'à caractéristiques à peu près identiques des élèves, il valait mieux pour eux ne pas être dans une zone classée ZEP que dans une zone ZEP, hein, ce qui est un peu démoralisant pour les enseignants, mais qui montre bien que le contexte fait aussi effet, au sens où il y a de la labellisation, hein, il y a de la stigmatisation, et que, là encore, la volonté de faire le bien peut se transformer en son contraire. Les contextes, ils sont aussi des contextes locaux, bien évidemment, et tout ça à la fois. Nous n'avons pas, alors là je parle de l'équipe Cristoliano-Auvergnate, qui s'intéresse à deux collèges de l'Académie de Créteil. Et ce qui nous semble voir, mais ça vaudrait la peine, je crois que vous allez nous y aider aussi pendant ces deux jours, voir comment ces politiques qui ont un cadrage national ont été interprétées localement. Ce qui nous est apparu, c'est que des analyses, en tout cas moi ce qui m'est apparu, c'est que des analyses en termes de sociologie des organisations, hein, je me réfère au grand modèle Crozy, etc., sont assez pertinentes pour expliquer ce que deviennent les politiques, les moyens de ces politiques, au sens où là encore, elles sont réinterprétées localement. Pour parler d'un des collèges que nous connaissons un peu mieux que l'autre, vous savez que la politique RARS s'est mise en place en un temps extrêmement contraint. Il a fallu que certaines personnes qui s'occupaient de solliciter des vocations de référents se mobilisent très très fortement pour affecter ces référents des établissements, etc. Que certains chefs d'établissement ont pu se sentir contournés par cette rapidité. Et que du coup, ils ont eu tendance à, évidemment, accepter les moyens qui leur étaient donnés, mais à les utiliser dans le sens de ce qui était déjà leur propre politique d'établissement. On a là, je crois, une des raisons qui explique les visages particuliers que revêt toujours la politique RARS dans les établissements, qui n'est pas la même. Et du coup, le cadrage national est devenu aussi plus large. On a dit, après tout, on va admettre des choses qu'au début, on aurait peut-être souhaité contraindre davantage, mais qui tiennent encore compte du travail réel, et du travail réel en contexte, non plus simplement du travail des enseignants, mais du travail de la totalité de la collectivité éducative qui a affaire avec ces dispositifs. Dans un des cas donc, qui nous occupe, on voit par exemple que le chef d'établissement a utilisé deux des référents en mathématiques et en français pour stabiliser les équipes de français et de maths, pour les épargner autant que faire se peut du turnover qui les caractérise dans les zones cristalliennes, hein, essayer de fixer en donnant à des enseignants chevronnés des responsabilités d'organisation des disciplines. Le PE qui est nommé, joue un rôle d'interface entre le premier et le second degré, et le troisième ou le quatrième référent, comme on veut, lui a une mission spécifique, dont je parlerai aussi, d'organisation du travail des élèves après les heures de classe. Donc alors, on est dans une interprétation parmi d'autres. Hein. Il serait intéressant de dresser, si on pouvait, une typologie, hein, de ce que sont devenus les moyens et les dispositifs RARS sur l'Hexagone, parce que ça aiderait aussi à comprendre ce qui émerge. J'ai entendu que ce qui émerge, c'est pas simplement là encore le prescrit, mais la façon dont les acteurs réinterprètent, y compris se réapproprient, les moyens qui leur sont donnés et qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels il a été pensé au départ. Je crois que toute l'histoire des réformes éducatives de cette dernière période montre que ce soit les modules, que ce soit les TPE, que ce soit toutes sortes de choses, c'est toujours réinterprété avec des résultats assez sensiblement différents qui tiennent aux capacités d'analyse des acteurs, aux moyens, à la façon de les mobiliser, etc. Les contextes, ils peuvent être nationaux, ils peuvent être locaux, mais ils sont aussi imbriqués. Une des caractéristiques, je crois, que nous voyons dans les rares, c'est que les référents ou professeurs supplémentaires, alors je crois qu'on est passé à professeurs supplémentaires parce que dans les équipes éducatives, certains admettaient mal qu'il puisse y avoir des référents. Nous sommes dans un métier qui est un métier de l'horizontalité, qui supporte assez peu des carrières verticales hein, par rapport à d'autres pays, hein, dans lesquels il y a des directeurs des études, des gens qui ont des responsabilités d'organisation au sein de la profession enseignante. C'est pas du tout la tradition française. Ça n'est pas non plus dans le premier degré où on voit que les directeurs ne sont pas non plus des directeurs d'établissement, etc. Donc il y a cette habitude d'une parité qui fait que l'arrivée de professeurs référents peut être vécue comme une entorse assez considérable dans cette tradition et dans cette identité enseignante de parité, et qui fait que, je crois, on est passé du label référent à professeur supplémentaire. Ça, ça va bien, parce qu'être plus nombreux pour faire un boulot qu'on a du mal à faire avec le nombre qu'on est, c'est tout à fait acceptable. Admettre qu'il y ait des références, ça l'est beaucoup moins. Donc voilà, on est là devant des phénomènes de statut qui traversent les établissements, puisqu'on voit bien qu'à des degrés divers, les enseignants qui ont accepté d'être référents, dans le second degré, ils ont souvent été assez jeunes. Il y a même des cas dans lesquels c'était pratiquement des néo-titulaires. Hein. Ben, c'est pas dans toutes les académies, mais ça existait. Dans des gens qui vont au feu, mais avec la difficulté d'accréditer un statut qui est plutôt mal vu dans la manière dont la profession enseignante se saisit de façon classique. Donc ça, c'est un contexte qui, je crois, n'est pas du tout à négliger, parce qu'il peut être ou un facilitateur si les gens vraiment sont dopés et veulent accréditer ce statut-là, ou au contraire un inhibiteur si les gens se sentent dans une culpabilité permanente par rapport à leurs collègues et dans la nécessité d'effectuer un travail de réparation qui leur montre que ça n'est pas des traîtres, qu'ils ont le droit de développer des pratiques pédagogiques et d'organisations différentes dans l'établissement, sans pour autant être les chevaux de Troie de je ne sais quelle tentative de transformer profondément la profession enseignante pour des objectifs peu nobles. Des gens comme François Dubé, que j'ai déjà cité, disent que la profession enseignante est assez fortement travaillée, parce que d'un côté, il y a le statut. En général, les gens sont pas très contents de leur statut. Ils disent que c'est un statut épouvantable, il tient plus, il nous protège plus, etc. Mais nous adorons notre métier. Et ils sont sur ces deux polarités. On a un statut qui est nul, on a un métier génial, on ne voudrait pas en changer, etc. Si on pouvait revaloriser notre statut, ça serait bien. Mais le métier nous procure beaucoup de satisfaction. Je dirais que les référents, ils sont évidemment travaillés par cette opposition assez classique, encore une fois, dans notre tradition enseignante, mais ils sont aussi travaillés au niveau du métier, parce qu'ils se rendent compte qu'ils en viennent à exercer des aspects du métier qui n'étaient pas du tout prévus, pour lesquels ils ne sont pas du tout armés du point de vue de leur formation à base essentiellement disciplinaire. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais un des référents que nous avons beaucoup ausculté, filmé, interviewé, sondé, persécuté, nous dit que tant qu'il fait des mathématiques, ça va bien, ils sont tout à fait costauds. Dès qu'il s'agit de prendre la parole en public, dès qu'il s'agit de rentrer dans ces phénomènes, de rendre compte qui sont ceux désormais de ces fonctions, mais peut-être aussi de la fonction enseignante en général, alors là, ils se sentent dépourvus, illégitimes, mais qu'il y a une espèce de verre qui est dans le fruit du métier, parce qu'il l'amène en permanence à sortir de ses frontières traditionnelles. Et alors, ça rejoint la question du statut, parce que quelqu'un qui se mêle de faire autre chose que des mathématiques, du coup, a tendance à devenir suspect à l'égard d'autres personnes, puisque sa légitimité n'est plus assise. Donc voilà, ces tensions qui nous paraissent pas innocentes, en tout cas sans conséquences, et qui vont aussi, je crois, beaucoup dans ce que on appelle aujourd'hui les métiers de l'humain, c'est-à-dire les métiers dans lesquels on essaie d'avoir une action transformatrice sur les autres, où les choses ne sont plus écrites, même si les objectifs sont sur-écrits, les manières d'y arriver ne le sont pas, et on voit ces jeunes professionnels puiser dans des ressources qui sont largement extérieures à celles qu'ils ont pu acquérir à l'UFM ou ailleurs, qui sont des ressources de vie en général, qui sont des ressources d'expérience. On n'a pas fait, là encore, je crois que ça vaudrait la peine de faire ça sur l'échantillon national, hein, mais il nous semble, dans les quelques exemplaires de référents engagés que nous avons, qu'il y a cette espèce de dénominateur commun de gens qui ont une épaisseur de carrière qui est plus large que celle de leur simple formation et de leur simple engagement d'enseignant. Ils vont puiser très loin dans des ressources professionnelles et dans des ressources éthiques, ce qui devient aussi aujourd'hui une caractéristique des professions et des métiers de l'humain. Le dernier point que je voudrais aborder brièvement, c'est qu'il y a un autre... Le contexte peut se poser encore d'une autre manière, donc contexte national, contexte local, contexte imbriqué, hein, parce que j'ai un statut et j'ai un engagement local, et il peut y avoir un conflit entre ce statut et cet engagement local et le métier que j'exerce. Autre type de contexte, c'est de savoir si le réseau ambition-réussite est vraiment un isolat dans l'ensemble de la profession enseignante, ou au contraire s'il y a un effet de loupe. Ça rejoint la problématique classique en recherche sur les EP. Est-ce que les EP, c'est un autre métier? Ou est-ce que c'est exercer un peu autrement un métier qui, de toute façon, devient le métier de tout le monde? Bon, je serais plutôt, personnellement, sur cette deuxième approche. Il y a une manière, je crois, de grossir des traits d'évolution de la profession enseignante que l'on voit dans les EP. Et parce qu'on peut imaginer que cette manière d'effacement, de porosité, de pluralité de la forme scolaire, hein, le fait qu'aujourd'hui vous êtes enseignant, mais vous devez aussi donner des notes de vie scolaire, vous devez aussi former au développement durable, c'est-à-dire à toutes des choses qui n'ont pas des matrices disciplinaires classiques sur lesquelles pouvait s'appuyer la forme scolaire, sont des phénomènes qui concernent absolument toute la profession enseignante, exacerbés évidemment dans des zones plus difficiles parce que les élèves sont encore moins élèves qu'ils le sont ailleurs. Donc le présupposé que nous avons, c'est qu'effectivement les traits émergents de la profession enseignante, on peut les trouver de manière un peu grossie dans les réseaux ambition-réussite, et que c'est un contexte qui fait partie du texte plus général des évolutions de la profession enseignante. Voilà, je vous livre quelques points qui nous excitent en tant que chercheurs. Vous allez me dire, on n'est pas là pour ça nécessairement, sauf si on pouvait communiquer cette excitation, parce que immédiatement on est confronté, et j'aborde le deuxième point tout de suite, au problème redoutable qui est celui des ressources. Parce que quand Françoise Caro, avec la gentillesse et le sens de l'enrôlement qui la caractérise, nous dit « ça vous dirait pas de contribuer à produire des ressources pour le centre Alain Savary ?» On dit « mais bien sûr ». Et après on se dit « mais qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que vous voyez bien que nous sommes en pleine élaboration et qu'il est extrêmement difficile d'élaborer des choses pour la formation au moment même où on essaie d'élaborer des choses pour la recherche. On est là devant, nous sommes là devant un problème assez lancinant, qui n'a pas reçu, je crois, de réponse vraiment satisfaisante jusqu'à nos jours. Je ne dis pas que nous allons apporter cette réponse, mais je crois que toute l'histoire un peu chaotique de l'INRP, si je peux me permettre de dire ça, est une preuve, enfin un témoignage de cette difficulté qu'il y a à savoir comment on produit la ressource, comment on diffuse les résultats des recherches. Question lancinante, il y a pas mal de gens très doctes hein, qui se sont lancés là-dessus. Je renvoie aux travaux d'Huberman, Gatter-Turler, etc., qui se sont penchés sur ces questions des recherches-actions, de la diffusion. Aujourd'hui, l'idée naïve qu'on a pu partager il y a quelques années ou quelques décennies, selon la métaphore de la tache d'huile, vous savez, il y a des recherches qui sont produites, des résultats, et ça se répand. Il va y avoir capillarité et les praticiens de terrain vont recevoir la bonne parole, vont l'admettre et vont l'intégrer dans leur pratique. Évidemment, ça marche pas. C'est un peu dommage, hein, mais ça ne marche pas comme ça. Ça marche même pas du tout comme ça. Ça peut même avoir les effets totalement contraires aux effets espérés. Il peut même y avoir des cas dans lesquels l'utilisation, le succès de résultats de recherche va avoir des effets tout à fait pervers, pour employer un terme sans porter de jugement de valeur. Je pense au succès qui a été celui des théories de l'école de Bourdieu, hein, et des théories de l'époque, théories classées de manière générique dans la reproduction, où on peut penser que nombre de praticiens voit dans les théories de la reproduction des raisons supplémentaires de désespérer de la possibilité de changer quoi que ce soit dans un système où les enseignants sont des mystificateurs mystifiés. Alors, est-ce que c'est Bourdieu qui est la cause de ça? J'ai tendance à dire, bien évidemment, non. Parce que le problème de Bourdieu, c'était pas de faire de la formation. Le problème de Bourdieu, c'est de faire avancer la recherche en sociologie sur les structures sociales, la manière dont elles se reproduisent, en reprenant les problématiques classiques du fonctionnalisme durkheimien, en leur injectant du conflictualisme, etc., etc. On est là dans des procédures de recherche qui ont leur légitimité totale, et je crois qu'on pense plus après Bourdieu comme avant Bourdieu, et qu'il serait tout à fait dérisoire et évidemment stupide de nier l'apport considérable qui a été le sien issu de son école. En revanche, penser que ces théories de la reproduction s'appliquent immédiatement pour armer l'action pédagogique, là, il y a un problème. Le pas a sans doute été trop vite franchi, sans doute parce qu'il alimentait déjà des préconceptions des gens et qu'il venait à point pour externaliser leurs difficultés. Je veux dire que si je suis en difficulté dans ma classe et que j'ai une théorie puissante qui me dit « c'est pas ta faute, c'est la faute des structures sociales qui se répètent à travers toi », mon identité en ressort un peu réconfortée et je mets à distance les responsabilités que je peux avoir dans le fait que moi-même je participe, en le voulant, sans le vouloir, à ces phénomènes de différenciation et d'inégalité dans les apprentissages. Donc là, il y a un travail spécifique à faire à partir des résultats de recherche, qui est sans doute plus facile à faire quand les résultats de recherche sont déjà un peu stabilisés, encore plus difficile dans le cas, vous voyez, on se donne toutes les facilités possibles, dans le cas où on est en train de les fabriquer. Il y a un concept que je reprends à Jean-Louis Martinant, qui me paraît tout à fait intéressant, qu'on n'a pas encore assez creusé de mon point de vue, qui est la notion de reproblématisation. Je trouve que Martinant a une approche très, 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 très convaincante de cette question du rapport entre recherche et formation. On est souvent, dans ces questions-là, renvoyé à des dualismes, à des binarismes assez stériles, qui consistent à dire il y a des gens qui font de la théorie, c'est les chercheurs, il y a des gens qui font de la pratique, c'est les formateurs et les praticiens. C'est souvent ce que disent les stagiaires d'IUFM, alors vous savez, lorsqu'ils opposent les savoirs théoriques déversés à sceaux et à tonneaux depuis l'UFM et les vrais savoirs de terrain qu'on se fabrique avec des pairs lorsqu'on est dans l'exercice du métier. Les premiers ne valent souvent pas grand-chose, en tout cas pas tout de suite, et les seconds valent tout de suite, mais peut-être pas longtemps. Donc on est là dans des contradictions assez fortes. La manière dont Martinant réfléchit, c'est celle-ci, c'est la recherche est une pratique, l'enseignement est une pratique. Ce sont deux pratiques. Pratiques qui ont aussi des théories. Vouloir couper l'un et l'autre, serait vouloir séparer le recto et le verso d'une feuille de papier, il faut des ciseaux très très fins, et si vous y arrivez, vous refabriquez du verso et du recto, donc on arrête vite ce jeu, sauf à détruire la feuille. Dans l'idée de la reproblématisation, c'est une autre posture qui est adoptée, c'est-à-dire que on va essayer de transformer dans des termes qui sont les termes de la pratique des chercheurs, des choses qui peuvent être utiles dans la pratique des praticiens de l'enseignement, qui sont d'autres types de praticiens et qui ont besoin d'autres types de théories. Comme il le dit aussi en emprunté à d'autres, une bonne théorie, c'est bien pratique, et je trouve que c'est un précepte assez sain pour essayer de regarder les questions du rapport entre recherche et formation. Au fond, ce qui a été problématisé dans les termes de recherche, ce que nous dit Bourdieu sur la reproduction de la société, etc., etc., est-ce qu'on ne peut pas le reproblématiser en termes de pratique éducative? C'est-à-dire en recourant à d'autres types de concepts, d'autres types de médiation, d'autres perspectives dans l'espace et dans le temps, qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes, etc. C'est ce qui me semble que nous pouvons essayer de faire pendant ces deux jours-là, et moi, c'est ce que je crois qu'on peut essayer de vous offrir. Il y a à nous dire, voilà ce qu'on est en train de chercher, ce qui nous semble être en train de trouver, les limites que nous y voyons nous-mêmes. Je vais en énoncer quelques-unes, mais rassurez-vous, vous les verrez vous-même dans les heures qui vont suivre. Et à partir de cela, comment pouvons-nous nous aider les uns les autres à tirer du côté des urgences, des impératifs de la formation et de l'éducation? Ce que nous allons vous dire est empreint de beaucoup de doutes, de beaucoup de limites. Il y a des effets Créteil, par exemple, dont il faut se méfier. Nous sommes totalement, nous, imbibés là-dedans, mais c'est peut-être pas valable urbi et orbi. Il y a des effets collège. Nous avons beaucoup travaillé sur les collèges, peu sur le primaire, donc il faudra avoir à l'esprit qu'il y a un tropisme du collège qui doit être retravaillé dans ce qu'on va dire. Il y a beaucoup de choses de ce type-là, je ne les décline pas parce qu'on va y venir. Donc prudence, doute, interrogation doivent prévaloir dans nos échanges. Alors, nous allons vous dire deux ou trois mots des recherches à partir desquelles nous travaillons avec vous dès cet après-midi. Je propose à Dominique, qui n'est pas du tout au courant que je vais lui faire cette proposition, elle aura donc la fraîcheur de l'intervention, de bien vouloir nous dire sur quel matériau voilà, elle travaille et quel matériau elle va vous proposer. On fera la même chose avec Aix-Marseille et Créteil.
Très rapidement. Moi, je voudrais ajouter, hein, je partage vraiment tout ce que tu as dit là, je voudrais ajouter l'idée que le rapport recherche et formation est absolument indispensable. Voilà. Parce que le métier doit changer et il faut aller vers des transformations profondes et on a bien besoin des énergies, des chercheurs, des formateurs, des praticiens pour penser la transformation du métier. Alors ça, c'est vraiment le point de base. Deuxièmement, il me semble que dans notre fonction de chercheur, il y a peut-être quelque chose qui a été minoré toutes ces dernières années, pour des raisons historiques et du développement des recherches probablement, c'est la nécessité absolue de didactiser des masses de travaux qui existent sur la sociologie de l'école dont tu viens faire part, mais aussi sur la psycholinguistique, sur la sociolinguistique de l'école, sur les didactiques disciplinaires, les objets de savoir qui sont difficiles, pas difficiles, obstacles ou non, sur la psychologie sociale ou au contraire cognitive, développementale, sur l'histoire de l'éducation, sur les pratiques anciennes. Autrement dit, on a depuis 50-60 ans une masse de travaux extrêmement considérable qu'il nous faut, de mon point de vue, mettre à la portée des formateurs et des enseignants en travaillant là-dessus pour construire probablement le transfert possible de ces connaissances et la mise en synergie de ces connaissances. Je pense que c'est une de nos responsabilités pour asseoir des pratiques nouvelles sur un socle de connaissances qui a été construit et qui existe et qui est extrêmement important hein, et qui est sous-utilisé. Voilà, ça c'est la première idée. La deuxième idée que je voulais essayer de dire, moi, c'est que aujourd'hui on s'inscrit dans quelque chose qui émerge d'une certaine façon aussi, c'est les recherches que je dirais en didactique professionnelle. Hein. La didactique professionnelle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une science nouvelle hein, qui est beaucoup, beaucoup issue du CNAM d'ailleurs, mais pas que du CNAM, qui a travaillé sur le métier, l'ergonomie, comment on travaille, et qui s'est posé un certain nombre de questions. Un métier, comment ça s'apprend? Ok. Un métier, comment on forme à ce métier? Est-ce qu'il y a des conditions favorables? Est-ce qu'il y a des situations favorables? Une autre question tout à fait fondamentale, c'est quelle est la nature de ce métier hein, quand on est conducteur de train, enseignant ou à la tête d'une centrale d'énergie nucléaire, quelle est la nature exacte de ce métier? Et du coup, avec infiniment de modestie, quels sont ces grands invariants au-delà de l'extrême diversité de ces réalisations et de ces ajustements? Voilà, il y a quand même dans nos métiers d'enseignants, alors c'est des travaux qui sont déjà construits depuis longtemps, mais peut-être aller plus loin. Et en même temps, quel est le couplage entre ces grands invariants et les réalités spécifiques de tel ZEP ou de tel village ou de tel quartier ou j'allais dire de quelle toiture pour comprendre les ratés, les réussites, les obstacles? Essayer de mieux comprendre. Et du coup, il me semble que l'objet que se pose la didactique professionnelle et peut-être nous dans le cadre de cette conception du travail de la recherche, c'est effectivement de comprendre et accompagner les transformations de ce métier et c'est de construire des savoirs professionnels nouveaux ou de reconstruire des savoirs professionnels nouveaux ou de reproblématiser, comme tu le disais, des savoirs professionnels nouveaux ou de reproblématiser des théories telles que nous les avons faites. Du coup, coopération obligée. On ne peut pas travailler séparément. Co-intervention, à la fois dans des processus de va-et-vient, d'immersion, comme vous faites, comme nous on fait, on va dans les classes, on regarde ce qui se passe, etc. Mais en même temps, processus de mise à distance, de questionnement, etc. Et re-immersion et redistance dans un espèce de va-et-vient, il me semble. Parce que dans le fond, les objets sur lesquels nous travaillons, et la difficulté de ces objets, c'est que ce sont des connaissances tout à fait, dans le fond, mixtes, mélangées. qui sont des connaissances à la fois théoriques, mais expérientielles, mais pratiques, mais technologiques. Et ces connaissances-là, qui vont faire l'évolution du métier, il me semble que là, elles sont de nature tout à fait intéressante, tout à fait problématique, et dans le fond, peut-être pas encore extrêmement théorisée. Pour conceptualiser les pratiques nouvelles ou les savoirs nouveaux, il y a du travail, et ils ne peuvent être faits qu'en commun. On a besoin du point de vue des acteurs, on a besoin du point de vue des chercheurs. Et la deuxième chose que nous apprend la didactique professionnelle, alors ça c'est une grande leçon, et là il faut l'écouter, et surtout en ZEP, hein, c'est que la transformation des pratiques, que ce soit des conducteurs de train, des aiguilleurs du ciel, etc., ne se décrète pas par instruction officielle, ne se décrète pas par des injonctions. Hein. La véritable transformation des pratiques professionnelles, elle est le fruit d'un collectif, d'une reconstruction collective, d'une transformation collective. Elle est sûrement le fruit d'un certain nombre d'individus qui sont toujours un peu à l'avant-garde. Mais si l'avant-garde, ben vous savez, dans l'enseignement, l'avant-garde est restée l'avant-garde et elle n'a pas fait tache d'huile. Et donc, il faut trouver les moyens d'une reconstruction collective par la profession, hein, elle-même. Et donc, à la fois, il me semble que notre travail à nous dans cette relation recherche-formation, c'est de créer les conditions de cette interrogation collective. Hein. Alors je reprends Martina, je suis d'accord. Hein. Mais comment on va pouvoir reconstruire des savoir-faire en ne portant pas l'opprobre ou la stigmatisation sur ceux qui feraient bien ou ceux qui feraient mal, hein, mais en faisant ce travail collectif de repenser ensemble le métier, puisque ce métier... voilà. Donc du coup... Juste une petite réponse, hein, mais en termes de vraiment de questionnement pour nous tous, d'arriver à penser cette espèce de lien recherche-formation en mettant au milieu action. Hein. Alors c'est pas un scoop, hein, c'est bon, mais recherche, action, travail ensemble, formation. Et donc du coup, et c'est vraiment, il me semble, le travail de cette équipe de je sais pas, tu l'as peut-être dit, hein, je suis arrivée en retard, mais il me semble que c'est vraiment le travail de cette équipe de faire recherche, action, formation, alors de mon point de vue, sur des objets précis, c'est pour ça que je vais vous dire ce sur quoi on va travailler dans le petit groupe que je tutore là, sur des objets précis, alors là par exemple on va travailler sur la notion d'atelier, hein, voilà, c'est tout petit, on va travailler sur la notion d'atelier, comment la notion d'atelier peut permettre dans un petit champ, petit morceau, de transformer des pratiques, mais dans un partenariat institutionnalisé très clair. Hein, parce que là, il faut la clarté sur les partenariats institutionnels. À mon avis, avec des instruments de validation double, des instruments de validation qui sont ceux de la recherche, hein, et on a des critères, mais aussi qui sont ceux de l'institution scolaire. Hein, c'est-à-dire que quelque part, il faut que ça transforme et ça produise de l'efficience, avec des instruments d'évaluation un peu classiques, peut-être de l'école. Troisième chose, la publication de ces travaux. Et quand je dis publication, la didactisation de ces travaux, c'est-à-dire que les travaux que nous aurons faits, il faut qu'ils soient conceptualisés à un niveau accessible et communicable. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à réfléchir sur la manière dont les travaux que nous aurons faits ou que nous sommes en train de faire peuvent être compris, travaillés avec des concepts simples, accessibles, etc. Et il me semble que ça, c'est le premier sas. Et qu'après vient un deuxième moment qui est celui de la mise en place de situations de formation. Et je crois qu'il ne faut pas confondre recherche, action, formation et formation. Voilà un petit peu comme ça à l'emporte-pièce et rapidement un petit peu comment je vois un petit peu les choses et je vois notre action dans le cadre de petites sous-équipes à Montpellier ou plus dans le cadre de l'équipe de recherche du LIRDEF qui a vraiment cette conception de faire des recherches qui soient des recherches transformatives. Hein. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans l'atelier 3, c'est ça, hein, et quels instruments et quelles situations on va avoir, ben, on a un peu réfléchi, un peu rapidement, à vrai dire, on a pris des décisions un peu rapides, mais l'idée, c'est dans le fond de vous faire part de l'avancée du petit travail de recherche qu'on a commencé à Montpellier. Alors, il y a deux films dont Michel Lacage est le héros, l'acteur principal et la victime désignée, où on a deux situations de classe qui sont relativement identiques, où quelque chose a bougé entre les deux, où on a mis en place véritablement un atelier entre la première et la deuxième, et on va travailler à qu'est-ce qui s'est modifié, quels sont les nouveaux gestes professionnels qui se sont mis en place, est-ce qu'on peut identifier des invariants, hein, est-ce qu'on peut identifier des conditions de réussite. Alors on a ce premier corpus là avec des petits extraits de vidéos, et puis on avait un deuxième corpus qui avait été proposé par je ne sais plus qui d'ailleurs. C'est toi, non, qui avait proposé, oui, Jade, hein, c'est toi, qui est des propos d'un enseignant questionnant des formes nouvelles qui sont proposées d'évaluation et montrant les problèmes que ça pose, etc. Donc on peut partir de à la fois un instrument qui arrive et qui est imposé, et de l'autre côté, un instrument qui se fabrique et qui se construit par les acteurs eux-mêmes, accompagné par la recherche. Voilà un peu ce que nous allons faire.
Alors, simplement... merci. Si, je vais parler. Simplement un couplet le plus rapide possible par rapport à la recherche et l'articulation recherche-formation. On a du mal à pas être engagé sur cette thématique-là. Je voudrais d'abord remercier Françoise Carreau et toute cette possibilité de collaborer au niveau de l'INRP avec des chercheurs. Et ça a été pour nous une occasion de sortir, comme tu disais, des tropismes cristalliens, d'arriver à comprendre un peu et puis de pouvoir mettre au travail nos corpus, nos données avec d'autres chercheurs. Ça, c'était les temps de préparation et qui ont été pour nous très stimulants. Et puis aussi, c'est l'occasion pour nous d'échanger avec des formateurs, avec... des IAIPR, mais aussi avec des personnes de terrain. Et j'espère que cet échange-là va être aussi très fructueux et on attend beaucoup de ce moment d'échange. Donc ça a été pour nous vraiment un plaisir de pouvoir travailler de commun, de concert, ces problématiques d'articulation entre la recherche et la formation. Alors je voudrais simplement souligner que moi je me sens partie prenante en tant que formateur IUFM et chercheur à l'UFM d'Auvergne. Le travail qu'on mène avec Patrick, c'est d'essayer de créer une sorte d'observatoire du développement professionnel des néo-titulaires notamment. Alors on aura peut-être tendance à parler beaucoup des néo-titulaires, j'essaierai d'être un peu mesuré, de me décaler parfois, pour à la fois décrire l'activité. Alors on a mis en place des processus un peu lourds, notamment dans la thèse de Marie-Estelle Rouve, où on suit de façon longitudinale sur une année des néo-titulaires du début d'année, donc de septembre jusqu'au mois de juin. Ils travaillent avec nous avec un enregistrement assez systématique de leur activité en classe. On a par personne, on a une cinquantaine d'heures d'enregistrement par personne, avec donc de l'activité en classe, des entretiens avec eux, pour essayer de comprendre comment se transforme cette activité. Et ensuite, tout un travail de consignation d'autres activités dans d'autres contextes sur un journal de bord, pour qu'on ait, comme cela, une sorte de recueil très large et en profondeur de l'activité en classe, mais aussi des autres activités hors classe. Donc on a essayé de modéliser un peu cette activité-là, de comprendre le développement, de comprendre ses trajectoires, mais aussi de comprendre l'identité professionnelle en cours de transformation dans ces établissements, réseau, ambition, réussite. Donc c'est une recherche en cours dont Marie-Estelle Roux vous présentera quelques matériaux demain, je crois, sur le volet numéro 3. Alors globalement et assez modestement, ce travail contribue à préparer au mieux les professeurs stagiaires dans les IUFM pour pouvoir les préparer à ces situations qui sont complexes, nouvelles, en partie renouvelées, mais aussi, de façon aussi assez modeste, de participer à la renormalisation d'un métier en permanente évolution. Alors, simplement pour présenter ce qu'on va tenter de faire cet après-midi, on va s'intéresser aux activités émergentes, aux nouvelles formes d'activités, et on va se consacrer à la co-intervention. Là aussi, comme le disait Patrick, on est dans une période d'échauffement où on recueille des matériaux, on essaye de prendre un peu de distance, on essaye de les appréhender, de les analyser, mais il faudra qu'on soit très prudent par rapport à nos différentes pistes d'investigation. Le travail, on fera une toute petite présentation en collectif, je pense que c'est dans cette salle-là, et nous vous présenterons ensuite deux types de corpus, une co-intervention entre une professeure de lettres et une documentaliste. Nous sommes avec des néo-titulaires des deuxièmes années qui vont ici co-intervenir devant une classe de sixième, et une autre forme, cette fois-ci asymétrique, entre un professeur référent et un professeur de mathématiques qui est en deuxième année. Et nous essaierons de voir également quel intérêt par rapport à ce type d'intervention, de co-intervention, de travail collectif, quel intérêt pour les élèves, pour les enseignants eux-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire de ce type d'intervention et comment envisager les conditions préalables à la conduite de cette activité collective qui est relativement novatrice dans ce genre d'établissement. Alors l'idée, ça sera donc de vous donner ces matériaux-là, de vous les présenter, et ensuite de vous laisser au moins une heure et demie pour qu'il y ait des échanges entre vous dans des ateliers différents. Je crois qu'il y a 3 salles de prévues, pour qu'il y ait une synthèse et qu'on puisse, de façon un peu consensuelle, repérer les intérêts, les limites de ce type d'intervention.
Voilà. Merci. Un tout petit point complémentaire sur Créteil. Avec Janine Reichstadt, qui est ici, nous occupons un volet un peu complémentaire de cette recherche en nous intéressant à l'organisation dans un des collèges du travail hors la classe par une professeure référente. Cela fait suite à un travail que nous avions fait avec, entre autres, Janine Reichstadt, mais toute une équipe d'enseignants-chercheurs et de formateurs du UFM de Créteil, sur le travail à la maison des élèves. Alors, pour donner les filiations, c'est Christine Félix, ici, qui a mis les doigts, la première, dans cette machinerie très compliquée que sont les travaux des élèves hors la classe. Et on avait été tout à fait convaincus par son travail. Nous avons eu envie de continuer, d'un point de vue un peu plus sociologique, moins didactique que le sien, même si on s'appuie là-dessus. Il nous semble que le travail hors la classe est une partie importante dans les différenciations d'apprentissage. Et nous avons saisi l'opportunité de ce qu'il y ait dans cet établissement-là une organisation un peu systématique de ce travail pour voir s'il s'y passait des choses différentes de ce qui se passe en général quand les élèves font le travail hors la classe, soit de manière spontanée, soit pris en charge par l'ensemble d'acteurs aujourd'hui très considérables et très contradictoires, souvent qui s'occupent de ce type de prescription. Voilà. Donc il n'y aura pas de traitement particulier de ce matériau, mais c'est pour que vous sachiez qu'il existe et qu'éventuellement il sera peut-être présent en filigrane dans les échanges que nous aurons. Donc il reste encore une équipe.
Oui, donc très rapidement, ensuite je passerai la parole à Christine Félix qui présentera le module 2, c'est ça? Je ne sais plus. Concernant le travail qui se fait sur Aix-Marseille, le travail de recherche qui est engagé depuis maintenant un peu plus d'un an, je vais aller très vite, hein, je ne vais pas expliciter, développer les quatre théories méthodologiques, mais je voulais juste insister sur une caractéristique forte des recherches qui d'où sont issus un certain nombre de matériaux qui vous seront présentés pendant ces 2 jours, qui est de reposer sur une logique d'intervention. C'est-à-dire que le travail qu'on fait à la suite d'autres enquêtes qu'on a pu conduire, le travail qu'on fait sur les réseaux en mission réussite, se fait sur la base de sollicitations d'un certain nombre d'acteurs, des rares. Hein. Donc on travaille avec notamment un collège où on a l'occasion de travailler avec des professeurs référents, des assistants pédagogiques, etc. Mais sa caractéristique, c'est que ce sont des recherches qui sont conduites sur le mode d'une intervention, c'est-à-dire qu'il y a une sollicitation, une demande expresse des acteurs concernés par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur fonction, de leur mission, etc. Donc ça spécifie quand même le type de travail qui est fait, puisqu'on n'est pas dans une recherche où on serait a priori guidé par une hypothèse théorique, une problématique dans laquelle le terrain serait justement l'occasion de mettre à l'épreuve cette modélisation, mais bien une situation dans laquelle, comme dit un collègue Yves Schwartz, on est amené à intervenir, c'est-à-dire se mêler de la vie des autres et se mêler à la vie des autres, ce qui soulève tout un tas de questions, hein, la rencontre des valeurs qui sont au travail dans la situation, nos propres valeurs, celles des acteurs du rare, celles liées aux possibilités de transformation de leur activité, etc. Et donc ça spécifie la façon dont travaille l'équipe sur Aix-Marseille. Et en même temps, ça incite à une certaine prudence sur l'usage des matériaux, hein, à la fois pour des raisons éthiques, déontologiques, parce que ils méritent d'être traités avec beaucoup de doigté. Hein. Les terrains sur lesquels on travaille, ils sont habités par des professionnels qui s'efforcent de faire ce qu'on leur demande de faire, de manière plus ou moins efficace, hein, plus ou moins coûteuse. Et je voulais insister sur cette dimension-là qui renvoie à une posture qui est la nôtre, hein, qui est de justement prendre au sérieux cette activité-là, encore une fois, dans ce qu'elle a de potentiellement créatif, mais aussi de problématique. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on vous proposera de travailler sur un certain nombre de matériaux issus de ce travail. avec cette idée que finalement, pour nous, du point de vue de la recherche, là, et pas seulement de la formation, l'intervention, elle joue un peu le rôle de force de rappel par rapport à des concepts qui seraient trop vite stabilisés. Je pense par exemple à des notions comme la résistance au changement, qui ne tient pas vraiment la route quand on commence à s'intéresser de près à ce que font les gens au travail, quoi. Donc c'est un concept qui est censé produire une explication, mais qui est très largement mis en défaut dès lors que on s'intéresse à l'activité des gens, et on se rend compte que cette question-là du rapport au changement est beaucoup plus compliquée, et que le fait de la stabiliser à travers cette espèce de concept passe-partout de résistance au changement empêche en fait de voir ce qui se passe effectivement, et empêche d'accéder à la réalité, quoi, au travail réel. Voilà, donc c'était sur ce point-là que je voulais dire quelques mots et vous alerter par rapport à la nécessité. D'ailleurs, on a eu beaucoup de discussions dans l'équipe sur est-ce qu'on met ou non en circulation des vidéos. On l'a fait de manière très prudente, bien entendu avec l'accord, puisque nous, ça repose sur un protocole particulier qui s'appuie beaucoup sur l'usage de l'autoconfrontation, donc avec l'accord des professionnels concernés. Mais même avec leur accord, on a estimé qu'il fallait prendre toutes les précautions pour éviter des dérapages qui pourraient être assez catastrophiques par rapport justement à la relation de confiance qu'on essaie d'établir avec les collègues avec qui on travaille dans la durée, quoi, je dirais. Voilà, donc je laisse la parole à Christine.
Bien, donc c'est toujours très difficile de dire des choses intelligentes après tout ce qui s'est dit passé en dernier, donc je vais essayer de tenir mon rôle. Donc par rapport à bien sûr, donc nous c'est l'équipe de Marseille. On travaille plus particulièrement avec deux établissements scolaires, dont il y a ici Christine qui est entre autres professeure dans un des deux collèges avec lequel on travaille. Donc, comme l'a précisé également Frédéric, c'est toujours face à une demande expresse de la part de l'équipe que nous intervenons dans un établissement sur des questions qui dépassent un petit peu le cadre de ce qui va se traiter aujourd'hui, enfin durant ces deux jours, notamment sur des questions qui sont aussi des questions de gestion d'hétérogénéité ou de gestion d'élèves entre guillemets difficiles. Alors bon, voilà, il y a tout un travail comme cela qui se fait, je dirais, avec une équipe élargie, hein, pas simplement des professeurs. À plusieurs reprises, on a parlé de professionnels de l'éducation. Donc il y a évidemment aussi, comme le précisait Patrick, tout un travail qui se fait avec les deux chefs d'établissement des deux collèges dans lesquels nous intervenons, avec également les CPE, mais aussi les documentalistes, parce qu'on se rend compte que finalement cette nouvelle professionnalité regroupe, je dirais, un certain nombre de nouvelles tâches et de nouvelles fonctions, et que vraisemblablement ça a des effets sur la manière d'organiser l'établissement et la manière de piloter cet établissement. Donc on travaille au plus près avec d'autres personnes que les simples professeurs. Alors, dans le cadre de ce qu'on voulait un peu travailler aussi ensemble avec vous, il y a cette idée de sous la nouvelle professionnalité, de quelles sont les nouvelles tâches, hein, qui sont assignées à ces enseignants et quels sont les nouveaux lieux de travail. Et on s'est rendu compte dans ces collèges Ambition Réussite, dans ces réseaux Ambition Réussite, qu'il y a des nouveaux lieux, notamment tout un ensemble de dispositifs qui sont en dehors de la classe, mais à l'intérieur même de l'établissement scolaire. Et c'est le choix que nous avons fait pour ce module 2, c'est-à-dire d'aller regarder un petit peu de plus près, hein, ce qui se fait à la fois, je dirais, du point de vue des élèves, mais également du point de vue des enseignants, lorsqu'ils sont, je dirais, amenés à aller enseigner autre chose que leur discipline propre, à des élèves qui ne sont pas parfois, pas toujours en tous les cas, leurs élèves, et parfois même constitués par des groupes d'élèves qui peuvent être constitués également de plusieurs classes. Donc ça, c'est une première interrogation, hein. Comment finalement on s'y prend pour enseigner autre chose que sa propre discipline, avec des élèves qui ne sont pas forcément les siens, et dans des temps ou des dispositifs qui peuvent être, je dirais, très concomitants ou très proches de certains autres dispositifs. Alors, on va prendre un dispositif qui s'appelle l'ATP, l'aide au travail personnel, parce qu'il nous a semblé dans l'équipe, hein, que ça a soulevé un certain nombre de questions. Ça soulève les questions de, bien entendu, de l'objet même de l'enseignant, hein, qui consiste, comme l'a répété Frédéric dans l'introduction, à organiser les conditions de travail des élèves. Mais évidemment, ça interpelle aussi la manière dont l'enseignant lui-même va s'y prendre pour organiser ces conditions de travail des élèves. Hein, je le répète, avec des élèves qui ne sont pas nécessairement les siens, avec des élèves aussi qui, eux, dans leur parcours et dans leur vie au quotidien de la journée, se retrouvent très souvent passés d'un dispositif à l'autre. Et donc là, on voit bien, en tous les cas, dans les deux établissements avec lesquels nous travaillons, des élèves qui peuvent passer comme cela très successivement de l'aide au travail personnel, mais ensuite entrer dans le PPRE, puis sortir du PPRE pour le soir aller en aide au travail, et puis aller en aide aux devoirs avec les assistants pédagogiques. Donc là, il nous a semblé qu'il y avait une espèce de chevauchement, en tous les cas, une multiplication, un accroissement des dispositifs supposés venir en aide aux élèves, et qui peut-être, on verra ça probablement dans les deux journées, peut-être aurait peut-être tendance à accroître une certaine opacité, en tous les cas une absence de lisibilité, à la fois pour les élèves, de ce qu'ils ont à faire et comment ils ont à le faire, mais aussi des enseignants qui se trouvent dans cette espèce d'obligation, je dirais, de se questionner sur leur statut et la légitimité de ce qu'ils font, selon qu'ils sont professeurs de mathématiques supposés organiser les conditions de travail de leurs élèves en mathématiques, et puis l'heure d'après, ils sont en ATP, donc est-ce qu'ils sont dans une espèce de polyvalence, ou sont-ils dans le soutien scolaire, doivent-ils faire que des mathématiques ou autre chose, et puis quand ils sont en PPRE, et puis quand ils sont en aide individualisée, voilà. Donc là, il nous semble qu'il y a effectivement, ça vient bien nourrir ce questionnement autour de cette nouvelle professionnalité, à la fois des nouvelles tâches et des nouvelles fonctions. Voilà, donc demain, on vous proposera effectivement quelques extraits de trois jeunes collègues qui sont tous les trois professeurs ambition réussite, dont un qui a en plus la charge et la responsabilité d'organiser cet ATP, ce dispositif au sein de son établissement. Il a, entre guillemets, sous sa responsabilité, 17 professeurs. Et on se rend compte là aussi dans l'analyse et la co-analyse, en travaillant de très très près avec lui, qu'il se trouve confronté à des responsabilités de chef de projet, j'ai envie de dire, qui est amené à mobiliser une équipe qui doit faire des comptes rendus, qui doit innover, imaginer une organisation possible, à la fois sur le plan structurel, mais c'est aussi sur le plan pédagogique, confronté évidemment à des situations de travail auxquelles les enseignants jusqu'alors étaient peu habitués, c'est-à-dire des enseignants qui, pour X raisons, ne peuvent pas venir à cette réunion, ne veulent pas travailler avec tel collègue, et puis cet enseignant, bien entendu, qui doit aussi gérer tout cela. Voilà, donc c'est un petit peu ces questions-là dont on essaiera de parler, d'élucider et de voir comment on peut imaginer, toujours pour faire le lien avec le module 3 de Dominique, le lendemain, sur la question de la production des ressources. Comment, avec une efficacité malgré tout, ces enseignants opèrent des compromis, qui soient des compromis justement qui leur permettent de tenir devant leurs élèves, devant leurs collègues, auprès du chef d'établissement et des parents, et comment malgré tout ça, ou avec tout cela, ils produisent des documents qui sont supposés à la fois aider les élèves, aider l'équipe pédagogique qu'ils pilotent, et puis bien entendu trouver une efficacité, un certain plaisir à faire ce qu'ils font. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de ce plaisir-là, justement. Voilà.
Peut-être quelques mots sur le dénominateur. Voilà, je vais juste revenir très rapidement avant de vous laisser la parole pour que vous puissiez réagir. On avait prévu de le faire en préambule, mais ce n'est pas gênant parce que tout ça fait système. Revenir très rapidement sur finalement ce qui constitue le dénominateur commun des trois modules. Je dirais que les matériaux sur lesquels vous allez être amené à travailler présentent bien entendu des caractéristiques assez singulières qui sont liées au contexte dans lequel ils ont été recueillis, travaillés, etc. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est moins les réponses apportées localement à Aix-Marseille, à Créteil, à Montpellier, etc., que les questions soulevées à travers les matériaux qu'on a choisis. Donc c'est bien cette question. Ce qui peut y avoir de généralisable au-delà des singularités, c'est pas les réponses apportées, c'est bien les questions qui sont soulevées. Et parmi ces questions, il y en a une qui vraiment constitue un fil conducteur pour les trois modules, qui est une sorte de dénominateur commun, qui est l'interrogation sur la façon dont les enseignants essaient d'élaborer des usages de soi pour faire face aux multiples défis posés par les situations professionnelles élargies auxquelles ils sont confrontés dans le cadre des réseaux ambition réussite. Et de ce point de vue, ce qui est frappant, c'est de voir, quelle que soit la thématique sur les trois modules, de voir que c'est bien le métier qui est interpellé, à la fois dans ses dimensions personnelles de rapport au métier, mais aussi dans ses dimensions collectives. Donc ça, c'est un point assez fort qui ressortira de l'ensemble des matériaux, et qui, du coup, appelle, pour les acteurs concernés, appelle à la nécessité de repousser les limites du métier, je dirais, mais dans un contexte où, contrairement à des travaux antérieurs qu'on a pu conduire les uns et les autres, cette nécessité de repousser les limites de métier se faisait sur le terrain de la classe, c'est-à-dire du travail ordinaire de l'enseignant. Ici, on est sur un terrain beaucoup moins balisé, puisque, effectivement, on n'est plus du tout, comme Christine vient de l'évoquer, dans les murs de la classe, mais bien dans des dispositifs plus ou moins enchevêtrés, plus ou moins empilés, etc., liés à cette porosité de la forme scolaire dont parlait Patrick, et qui, du coup, non seulement bouscule le travail ordinaire du prof, mais même conduisent à un élargissement de son champ d'intervention et de compétences. Donc ça vient compliquer effectivement le travail, hein, puisque ce qui pouvait relever de la nécessité de refabriquer du métier par rapport au travail ordinaire, entre guillemets, du prof dans sa classe, ici vient se compliquer par le fait qu'on a l'apparition de nouvelles missions, nouvelles tâches, qui s'exercent sur un terrain qui n'est plus celui du terrain traditionnel où s'est forgé la professionnalité, le centre de gravité de la professionnalité enseignante. Hein. Je crois que c'est ces deux caractéristiques-là qu'on retrouve dans l'ensemble des modules, hein, une interpellation du métier, mais sur un terrain qui est plus aussi bien balisé que celui sur lequel cette interpellation s'est toujours faite en ZEP, hein, à savoir le terrain de l'interaction avec des élèves plus ou moins difficiles, plus ou moins rétifs à l'apprentissage, etc. Quoi. Voilà. Donc je vous propose de réagir maintenant, de revenir à des points qui ont été évoqués, éventuellement par rapport à la nécessité d'expliciter un certain nombre de points ou de...